désindustrialisation française.
Immigration
et préservation de l'environnement.
C'est la laïcité.
Système éducatif.
Croissance économique.
La République.
Du développement durable.
Le patriarcat.
La politique économique.
La réflexion sur l'urbanisme.
Vive la République. Vive la France.
Peut-on encore débattre en politique ?
Que veut dire aujourd'hui être de gauche ?
Et surtout, pourquoi ne pas explorer de nouvelles solutions ?
Je suis Lucie Casté, fonctionnaire spécialiste des questions économiques.
Je suis Saïd Benmoufok, professeur de philosophie, spécialisé dans les questions d'éducation.
Je suis Belir Nabli, professeur de droit public et essayiste.
Depuis quelques années, nous avons vu la pensée néolibérale envahir le discours médiatique. La gauche se dissoudre dans des concepts flous, des mots troubles.
Avec ce podcast, nous voulons remettre au centre du débat les fondements de la pensée de gauche, en allant à la rencontre de grands spécialistes qui portent une idée forte, une solution concrète à mettre en place.
Parce que la gauche n'est pas qu'une force d'opposition.
Bienvenue dans « On n'a pas tout essayé », un podcast proposé par l'Obs.
La droite et l'extrême droite dominent la bataille des idées. Elles ont réussi à diffuser leurs mots et leurs manières de penser, les problèmes et autres phénomènes de société. On voudrait revenir sur les ressorts de cette hégémonie culturelle. Comment des mots et un type de discours réussissent à infuser dans le débat public pour mieux faire passer certaines idées aux dépens d'autres regards, d'autres voix. Pour tenter d'apporter des éléments de réponse, nous avons invité Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques, qui enseigne la rhétorique à Sciences Po Paris. Il est également l'auteur d'un essai, « Le pouvoir rhétorique », publié au Seuil. Clément Viktorovitch, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Clément Viktorovitch, comment vous est venu cet intérêt, pour ne pas dire cette passion, pour la rhétorique, et comment vous pourriez définir cet objet ?
Commençons par la deuxième partie de la question, qui est la plus facile finalement. Comment définir la rhétorique ? La rhétorique, c'est l'art de convaincre, l'ensemble des techniques que l'on peut identifier, que l'on peut également apprendre, qui permettent d'emporter la conviction de nos interlocuteurs, de nos interlocutrices, de nos auditeurs ou de nos auditrices. Comment m'est venu cet intérêt ? C'est beaucoup plus difficile comme question. J'ai la réponse classique, celle que j'ai coutume de faire et qui est, je crois, pas tout à fait fausse, c'est de dire que moi, j'ai grandi dans une famille avec une mère qui était passionnée de littérature, un père qui était passionné de musique, et la rhétorique, c'est quelque part le fait de mettre des mots en musique. Ça, c'est pour le discours médiatique. Et derrière, je pense que c'est compliqué d'expliquer une passion comme ça, quelque chose qui se cristallise à un moment donné. Cela a à voir également, et peut-être avant tout, avec la question du pouvoir aussi. Très vite, j'ai cru percevoir le fait que les mots étaient porteurs d'un pouvoir, que ne pas les maîtriser, c'était être possiblement dominé, que les maîtriser, c'était être capable d'imposer ses idées. Et donc, c'est une porte d'entrée essentielle vers la politique.
Lucie ?
Vous distinguez dans votre ouvrage la question de la rhétorique et la question de l'éloquence. Est-ce qu'on pourra revenir sur cette différence ? Et par ailleurs, vous faites une autre distinction qui me semble très intéressante pour décrypter le débat politique actuel. C'est la distinction entre, d'une part, l'idée de convaincre. Vous avez dit la rhétorique, c'est l'art de convaincre. Et d'autre part, la persuasion, le fait de persuader. Vous dites dans votre ouvrage, convaincre, je cite, serait le domaine de la raison, persuader, celui de l'émotion. L'une serait rigoureuse, l'autre davantage fallacieuse. Vous dites aussi que persuader serait, je cite de nouveau, une activité permettant de faire adhérer les individus aux propositions que nous leur soumettons, en ayant recours aux affects et aux passions. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la politique fait appel à l'art de persuader, ou plutôt à l'art de convaincre, lorsqu'elle se tourne vers les citoyens ?
Bon, alors, il y a la question de la distinction entre rhétorique et éloquence. Du coup, je la laisse de côté. On y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera de la transmission, de l'enseignement de la rhétorique. Sur convaincre et persuader. Effectivement, les passages que vous citez sont dans mon livre. Je les ai écrits pour les réfuter. Cette idée qu'il y aurait une distinction entre convaincre et persuader, la conviction qui serait du côté de la rationalité, des arguments, et la persuasion qui serait du côté de l'émotion et donc de l'irrationalité, c'est une idée qui flotte dans l'air. C'est même quelque chose qu'un certain nombre d'entre nous avons appris à l'école, parfois au collège, au lycée. Convaincre, c'est argumenter, persuader, c'est émouvoir. En réalité, on sait aujourd'hui, notamment depuis les travaux d'Antonio Damasio, qui a travaillé, qui est un neurologue, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas réellement de distinction possible entre les deux. Que tout travail de conviction comporte toujours une part d'émotion. Que toute réflexion, y compris la plus rationnelle, comporte toujours une part d'émotionnel. Et d'ailleurs, On peut s'en rendre compte très facilement. Quand je parle et que je cherche à vous convaincre, fût-ce avec les arguments les plus chiffrés, les plus étayés, les plus rationnels possibles, il y a toujours une part d'émotion qui passe, de l'intérêt, de l'ennui, de la fascination, de l'agacement. Je vais toujours produire une émotion. Et cette émotion, elle a un impact sur la conviction qu'on a.
Pour le coup, vous êtes vraiment très convaincant sur le fait que la distinction entre convaincre et persuader est pas nécessairement pertinente. Mais est-ce qu'on peut pas essayer quand même d'utiliser ces deux termes pour essayer de décrire quelque chose qui se passe aujourd'hui dans le débat politique et dans la conviction ou pas de la population avec le phénomène de l'émergence du populisme ou alors la résurgence, je sais pas, en se disant que le populisme, plus que d'autres, essaye de jouer sur les émotions et sur les passions.
Alors, voilà. Moi, je poserais davantage la question comme ça. La distinction convaincre-persuader, personnellement, je ne la fais pas. Pour moi, les deux mots sont synonymes. En revanche, en effet, il y a une question qui est capitale, qui est la question de l'impact des émotions et de la place que prennent les émotions dans un processus, dans une entreprise de conviction. Et là, pourquoi est-ce que je commence en disant qu'il y a toujours de l'émotionnel dans la conviction ? Parce que on ne peut pas se contenter de disqualifier l'émotionnel comme un outil, comme une dimension qui serait irrecevable dans les réflexions publiques. Et je prends un exemple, je crois qu'on aura, qui va nous parler à toutes et à tous. 2015, grave crise de la migration. Des milliers de personnes meurent dans la mer Méditerranée. Ce qui se passe d'ailleurs encore aujourd'hui. En 2015, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Pourtant, les arguments rationnels existent. Les ONG tiennent des comptes. On a des témoignages. On sait ce qui se passe. Tout le monde s'en fiche. Les arguments rationnels n'avaient aucun poids sur le débat public. Il a suffi d'une photo. La photo du petit Alan Kurdi, enfant syrien échoué sur une plage turque. Il a suffi d'une photo pour qu'il y ait une prise de conscience à l'échelle internationale ou à minima européenne.
Mais en même temps, l'exemple que vous citez montre bien la limite de l'effet de l'émotion par rapport à un phénomène structurel de cette nature. Je veux dire par là, cette photo, à un moment donné, on a dépassé son caractère dramatique et on a oublié finalement les enjeux du phénomène migratoire.
Le propre de l'émotion, c'est d'être fugace.
Alors, il y a plusieurs questions en une là-dedans et vos remarques sont parfaitement justes. De toute façon, tout processus de conviction doit toujours se penser sur le temps long. Et effectivement, là, avec Alan Kurdi, on a eu un impact émotionnel qui ensuite s'est étayé dans le temps avec un retour de bâton sur la question migratoire qui a été massif et indéniable. Mais le fait est que, à ce moment-là, l'émotionnel a permis une prise de conscience, a permis quand même la décision, même si derrière il y a eu un retour en arrière, mais la décision de Merkel d'accueillir 1 million de réfugiés sur son sol, c'était quand même pas rien. Donc, l'émotionnel ici a eu un impact. Ce que je veux dire par là, c'est que personne ne dira que cette photo, elle était scandaleuse, que c'était une manière fallacieuse d'emporter la conviction. Là, on voit bien que l'émotionnel a permis un accès à une situation qui était trop loin d'une partie d'entre nous, qui était inconcevable pour une partie d'entre nous. Et là où les arguments rationnels n'ont pas eu de prise, l'émotionnel en a eu. Donc, on ne peut pas disqualifier purement et simplement l'émotionnel dans l'argumentation publique. Maintenant, et là je vous rejoins, il faut faire attention avec les émotions parce qu'elles peuvent aussi avoir, c'est vrai, une dérive potentiellement manipulatoire. Dans quel cadre ? Premier cadre, quand l'émotionnel est utilisé, est mobilisé sur une situation qui n'a pas de réalité objective. Quand on commence à faire extrêmement peur avec des situations qui n'existent pas. Souvenez-vous de la caravane migratoire qui était agitée par Donald Trump lors de, je crois, sa campagne des midterms pendant son mandat. Bon, tout le monde disait que ça n'avait pas de réalité. Et pourtant, l'image mobilisée était terrifiante, en tout cas pour une partie des Américains. Là, on a une utilisation de l'émotion qui est particulièrement fallacieuse, puisque en plus d'un mensonge, on a l'utilisation d'une émotion qui vient saturer l'esprit critique. Et puis, deuxième point, et le plus important, quand trop d'émotions est mobilisée, quand il y a un surcroît d'émotions, on sait que nos facultés critiques sont saturées. On sait que l'esprit humain gère assez mal l'émotionnel, ou plutôt que l'émotionnel vient nous prendre, vient nous mobiliser une grande part de nos capacités cognitives. Et plus nous sommes gorgés d'émotions, plus nous avons du mal à mettre à distance les arguments qui nous sont proposés. Et là, il y a un problème. Et quand on est face à certains discours politiques, on y reviendra peut-être, et notamment certains discours de droite, c'est vrai, il suffit d'écouter les discours d'Éric Zemmour et la mobilisation constante de la peur qui était au cœur de ces discours. Quand on a un tel impact émotionnel sur la foule, on peut avoir une foule qui, effectivement, est privée d'une partie de ses facultés critiques. Et ça, je crois que c'est manipulatoire.
J'ai J'aimerais revenir une seconde sur cette distinction convaincre-persuader, parce que, comme vous dites, en fait, on associe la persuasion à la mobilisation des émotions. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui peut susciter, qu'est-ce qui peut mobiliser des émotions? Est-ce que, par exemple, c'est le domaine privilégié des images? On se souvient de Chirac avec le bruit et l'odeur, Sarkozy qui disait sur les questions de criminalité, mais si votre enfant se fait assassiner par un mineur de 16 ans, est-ce que vous considérez que parce qu'il a 16 ans, il est irresponsable? Donc vous voyez, on avait comme ça un discours qui est très imagé, très simple à comprendre. Et donc, est-ce que la mobilisation des émotions passe par la simplification du discours, nécessairement?
En fait, la question qui est posée et qui est bien posée et qui est passionnante, je crois, c'est vraiment la question de la place de l'exemple au sein de l'argumentation. Et effectivement, la manière préférentielle, c'est pas la seule, mais c'est la plus simple et c'est celle qui est le plus souvent utilisée pour faire émerger des émotions, c'est l'utilisation d'images au sens de situations absentes que l'on rend présentes à l'esprit des auditeurs et des auditrices. Donc en fait, par quoi ça passe? Ça passe très largement par des descriptions. Des descriptions soit très longues, très détaillées, soit très vives, très ramassées, qui vont nous mettre en effet une image, une scène, une situation à l'esprit. Et c'est cette scène qui va produire une émotion comme une photo produirait une émotion. Bon, c'est pas la seule technique, hein. Il y a la métaphorisation, l'utilisation de métaphores permet aussi de faire émerger des émotions. Mais laissons ça de côté. Donc, la place des images, des situations, donc des exemples. Et là, en fait, on en revient encore une fois à qu'est-ce qui est admissible et qu'est-ce qui ne devrait pas l'être dans le débat public. Utiliser un exemple pour illustrer une situation plus générale dont on a fourni des arguments. Moi, je pense que c'est pertinent. Commencez par dire, il y a tant de milliers de personnes qui se noient dans la mer Méditerranée. C'est un drame. Des femmes et des enfants sont en train de mourir. Tenez, regardez le petit Alan Kurdi. Moi, ça me semble tout à fait rigoureux comme argumentation. Je pars d'un argument général que j'étaye avec des données, que je source, et je donne un exemple particulier pour que cet argument général prenne plus de poids. Maintenant, si je fais l'inverse, si je pars d'un exemple dont je donne une description tout à fait émotionnante, et que après j'en tire une règle générale sans avoir fourni d'argument entre les deux, ça c'est totalement fallacieux. Et là, en effet, on arrive dans le domaine d'arguments qu'on a bien connu. Jacques Chirac, le bruit et l'odeur, c'est un excellent exemple. Il part d'un exemple tout à fait particulier, d'ailleurs tout à fait fictif et tout à fait raciste, évidemment. Hein, le bruit et l'odeur, bon, on voit bien ce que ça évoque. Et la phrase d'après, il monte en généralité en disant « Vous voyez bien qu'on n'a pas les moyens d'obtenir le regroupement familial. » Bon, c'est un argument totalement fallacieux. Il ne peut pas passer d'un exemple particulier à un exemple général. Souvenez-vous de Jean-François Copé, il y a quelques années, avec son fameux exemple des pains au chocolat, où il disait « Vous vous rendez compte, pendant le ramadan, il y a des gamins qui ne sont pas musulmans, mais à qui on interdit de manger un pain au chocolat. Eh bien, il faut faire quelque chose, il y a un problème avec l'identité dans les quartiers. » C'est pareil, passer d'un exemple particulier à une règle générale, étant entendu qu'en plus, l'exemple particulier n'était même pas situé, il l'avait plus ou moins inventé. Donc là, effectivement, c'est totalement fallacieux. Mais ça, c'est le problème d'un véritable sophisme, hein, ce qu'on appelle une généralisation hâtive, un argument par l'exemple. Je pars d'un exemple et je prétends en tirer une règle générale. Et ça, oui, ça doit être banni ou en tout cas traqué dans l'espace public, je pense.
Mais est-ce que vous pourriez dire à grands traits que le discours politique a évolué ces dernières années, vers une tendance à mobiliser des images simplistes comme ça, qui peuvent parfois être fallacieuses d'ailleurs?
Et à les mobiliser avant toute chose et avant argumentation. Précisément, la deuxième option que vous présentez, qui est de partir de l'image pour aller au général, le sophisme que vous décrivez.
Moi, je suis toujours prudent sur la question de l'évolution du discours politique. Pour une raison simple, c'est que je ne l'ai pas avant tout étudié. Moi, je suis davantage un spécialiste de la rhétorique, l'art de l'argumentation, plutôt que de l'histoire du discours politique en France. Maintenant, spontanément, j'ai envie de dire, j'ai le sentiment de vous rejoindre. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a une évolution du discours politique vers la mobilisation de plus en plus d'arguments par l'exemple, de plus en plus d'un impact de la recherche, enfin, de plus en plus une évolution vers la recherche d'un impact émotionnel fort. Mais c'est lié à quoi ? C'est lié aussi à une évolution du système médiatique lui-même, avec ce double paradoxe, à la fois d'espaces d'expression qui se sont démultipliés, et en même temps, de fenêtres d'expression qui sont de plus en plus courtes, où quand vous êtes dans un plateau de débat et que vous réussissez à choper le bâton de parole, vous savez que vous avez 40 secondes avant d'être coupé. Et donc, en 40 secondes, qu'est-ce qui est efficace ? Ben, c'est pas une longue argumentation chiffrée, étayée et sourcée. C'est effectivement un bon exemple. Bien
c'est, quand même, un produit des conditions modernes de communication,
en partie,
aux réseaux sociaux notamment.
Bien sûr.
En vous écoutant, on comprend bien que l'art de la rhétorique est une arme politique. La question qui se pose, c'est de savoir si finalement, c'est une arme qui est qui se met au service du débat, de sa clarté, ou est-ce qu'au contraire, c'est un instrument instrumentalisé, si j'ose dire? Autrement dit, on sent bien qu'il y a un certain nombre de formules, de mots qui veulent dire une chose et son contraire, dès lors qu'ils sont utilisés par tel ou tel acteur politique. Je pense notamment au mot « république ». Tout le monde s'en réclame, tout le monde est républicain aujourd'hui, mais on comprend bien que l'idée que charrie le mot n'est pas la même. La question que je me pose, c'est de savoir si, au-delà de ces mots et de leur utilisation, il y a une rhétorique proprement liée à la droite et une rhétorique proprement liée à la gauche.
Bon, une question à laquelle il est difficile de répondre de but en blanc. Déjà, il faudrait qu'on réussisse à s'entendre sur la définition des termes droite et gauche, et je pense que ça pourrait nous prendre un podcast entier. Je ne saurais pas dire s'il y a une rhétorique de droite et une rhétorique de gauche. Je ne saurais même pas dire si chaque parti ou chaque composante de la droite et de la gauche ont leur rhétorique propre. J'ai l'impression qu'il y a effectivement des tendances, peut-être par orateur. Marine Le Pen, par exemple, c'est vraiment une oratrice qui va énormément mobiliser, on parlait des émotions tout à l'heure et des descriptions, c'est celle qui va le plus mobiliser ce qu'on appelle les hypotyposes, c'est-à-dire de grandes descriptions amples, larges, longues, vivaces, qui visent à mettre une image dans l'esprit des auditeurs et des auditrices, et bien souvent, dans le cas de Marine Le Pen, une image terrorisante, une image de peur. C'est quelque chose qu'elle utilise dans chaque meeting. Si on prend Jean-Luc Mélenchon, par exemple, c'est un orateur qui va avoir tendance à lui beaucoup plus aller chercher du côté de la métaphore. C'est peut-être celui, l'orateur aujourd'hui politique, qui mobilise le plus les métaphores. Donc, on pourrait comme ça catégoriser peut-être des orateurs, peut-être même des familles politiques, mais droite et gauche, ça me semble plus délicat. Et le mot de république que vous citiez en exemple tout à l'heure, je pense, est tout à fait éclairant. Le mot de république, qui d'ailleurs aujourd'hui est moins utilisé en positif qu'en agressif. Évidemment que tout le monde prétend se revendiquer de la République sans d'ailleurs généralement la définir. Et c'est très compliqué de définir quel est le contenu de l'idéal républicain, sauf à en revenir à liberté, égalité, fraternité. Bon, donc par contre, ceux qui se revendiquent préférentiellement républicains, c'est pas pour dire que eux-mêmes le seraient particulièrement, c'est pour dire que les autres ne le seraient pas. Et donc, en fait, derrière, en germe, ce qu'il y a, c'est une grande attaque de disqualification pour dire que toute une partie du champ politique aurait quitté, aurait déserté, aurait trahi les valeurs de la République. Donc là, effectivement, on a un enjeu qui est un enjeu de lutte sémantique, réussir à se revendiquer, à s'approprier le terme républicain, pas pour dire qu'on l'est, parce que nous le sommes toutes et tous, nous en faisons toutes et tous partie de la République, mais pour dire que d'autres l'auraient trahi.
Vous parlez de lutte sémantique et on vient de parler assez longuement de ces mots qui sont utilisés par tout le monde, mais avec une acception différente en fonction des intervenants. On va se poser une autre question, celle des nouveaux mots. C'est une question qui peut être utilement éclairée sous l'angle de la rhétorique. On constate que dans la bataille culturelle, la bataille des idées, des représentations et des mots, les forces politiques conservatrices, les forces politiques plutôt de droite, semblent avoir envahi l'espace public avec des nouveaux mots. Je pense par exemple au mot de islamo-gauchiste ou wokisme ou encore écoterrorisme. C'est quand même très intéressant d'observer cette tendance. On se rend compte que ces forces-là, ces forces conservatrices, sont plus efficaces pour saturer l'espace médiatique. Est-ce qu'il faut en déduire qu'il y a à gauche une moindre maîtrise de la rhétorique, une moindre capacité à s'adapter aux exigences de communication de la société actuelle qu'on mentionnait tout à l'heure?
Là, on est dans le sujet. Alors, wokisme, islamo-gauchisme, c'est absolument passionnant. C'est absolument passionnant parce que vous pouvez faire des recherches par corpus de textes, corpus journalistique, alors soit en utilisant Google Trends, soit en utilisant des moteurs de recherche comme Factiva qui permettent de regarder ce qui se dit dans de larges corpus de presse. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe que le mot islamo-gauchisme a gagné en prévalence d'année en année jusqu'à exploser au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron avec Jean-Michel Blanquer qui le légitime à l'Assemblée nationale. Et nous avions prétendument à ce moment-là une menace islamo-gauchiste à la fois en politique mais aussi à l'université. C'est ce que disait Jean-Michel Blanquer. Et puis, ça culmine avec la ministre de l'enseignement supérieur, Madame Vidal, qui demande au CNRS une enquête sur la gangrène islamo-gauchiste à l'université. Que dit à la fois le CNRS, mais aussi la conférence des présidents d'université qu'on ne peut pas suspecter précisément d'islamo-gauchisme? Ces deux instances disent, mais on ne peut pas vous répondre, Madame la Ministre, ce concept n'existe pas. Il n'a aucune existence dans le champ intellectuel. Il ne veut absolument rien
comment
dire.
Comment on explique que ce mouvement, cette tendance politique a réussi à imposer dans le débat public précisément un concept qui ne recouvre aucune réalité?
Eh bien, parce que c'est une question de lutte médiatique à laquelle j'ai des idées de réponse, mais il faudrait faire des études un peu plus étayées. Ce qui est sûr, c'est que ça a été répété ad nauseam. Il y a eu un effet de simple présentation. Et il y a surtout eu, et c'est ça le plus important, je crois, une reprise de ce terme au sein du parti au pouvoir, au sein de La République En Marche, alors qu'initialement, l'islamo-gauchisme, ça venait de ces valeurs actuelles qui parlaient d'islamo-gauchisme, d'islamo-collabo et compagnie. Donc, à partir du moment où le terme est légitimé à l'Assemblée nationale, eh bien, les journalistes s'en emparent. Pourquoi ne le feraient-ils pas? A priori, après tout, un ministre l'a dit dans l'enceinte des représentants du peuple. Et là, le terme devient légitime sans que personne ne réfléchisse à ce qu'ils veulent dire. Et au moment où la conférence des présidents d'université et le CNRS disent « Mais attendez, votre truc, ça veut rien dire, ça n'a aucun sens, on ne sait même pas quel contenu possède le terme. » Alors là, on voit le mot qui décroît, son usage décroît. Un autre mot apparaît en même temps, et vous voyez les deux courbes se croiser et vient le remplacer en termes de nombre d'emplois, c'est le mot « wokisme ». Et souvenez-vous, il y a encore 2 ans, quand on a commencé à voir « wokisme » apparaître, tout le monde se disait « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et aujourd'hui, le wokisme est devenu une menace. Et on nous explique qu'il y a une grave menace wokiste à l'université. Alors moi, je veux bien. Peut-être qu'il y a une grave menace wokiste à l'université, mais une grave menace qui apparaît en l'espace de 2 ans, c'est quand même un peu étonnant. Donc là, on voit bien que ces termes sont des mots épouvantail, qui sont là, qui n'ont aucun contenu, qui n'ont aucune définition, qui ne sont utilisés que pour être placardés sur les adversaires et les renvoyer à des concepts péjoratifs.
Donc là, les séquences et les processus que vous venez de rappeler placent certains acteurs face à leurs propres responsabilités, parce que finalement, il y a des mots, des notions qui sont légitimées de par leur usage, mais par des acteurs institutionnels, médiatiques. Donc tout cela n'est pas le fruit du hasard, c'est une construction et qui finalement aboutit à un processus de légitimation, alors même que les mots en question, comme vous l'avez rappelé, n'ont pas de consistance. Donc avec cette conséquence, celui de finalement d'affaiblir le débat public, le débat d'idées, voire même la vie démocratique. Est-ce qu'on peut s'en tenir précisément à ce constat ou en appeler aussi à la responsabilité des uns et des autres?
Alors, plusieurs éléments de réponse. Déjà, la première chose qu'il faut dire quand même, et qu'on ne dit pas assez, c'est que la droite n'a pas le monopole de ces mots épouvantails. Et que pendant des années, peut-être un peu moins maintenant, mais pendant des années, la gauche a agité des étendards lexicaux qui n'étaient rien d'autre que des mots épouvantails. Et je pense notamment à ce vieux terme de facho. Et pendant très longtemps, la gauche, dès qu'ils étaient un peu en désaccord avec une force conservatrice, l'accusait d'être facho. Alors, la différence, c'est que le mot de fascisme, c'est un mot qui a déjà un contenu historique et qui, derrière, aujourd'hui, a un contenu philosophique. Il y a des sociologues, des philosophes qui réfléchissent, et des politologues, évidemment, qui réfléchissent à la définition actuelle de ce qu'est le fascisme. Mais la manière dont il est utilisé par une partie des acteurs, facho, c'est un mot épouvantail comme wokiste. Bon, en fait, un mot peut avoir un sens à partir du moment où vous le travaillez d'un point de vue sociologique, philosophique, politologique. Bon, donc il y a une différence entre analyser le programme d'Éric Zemmour, repérer que dedans il y a des atteintes volontaires, claires et établies et assumées à l'état de droit, notamment des attaques contre le Conseil constitutionnel, et dire que cela constitue un glissement fasciste. Je l'ai dit moi-même, je l'assume, je le dis en me référant à la définition historique et à la définition politologique actuelle du fascisme. C'en est une autre d'insulter de facho le premier, la première personne avec qui on est en désaccord. Donc je voulais déjà commencer par dire que la droite, les forces conservatrices n'ont pas le monopole de ces mots épouvantails. Ensuite, pourquoi est-ce que ces mots s'imposent? Et là, oui, effectivement, il y a un succès, mais qui est un succès marketing de la droite et de l'extrême droite, des forces conservatrices, qui a été de trouver des mots qui étaient des mots clinquants, qui étaient des mots qui parlaient à toutes et à tous, qui étaient des mots qui pouvaient aussi véhiculer un contenu émotionnel. Ça fait peur, islamo-gauchisme, islamo-collabo, wokiste, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est effrayant.
Et est-ce que précisément parce qu'on ne sait pas ce que ça signifie qu'ils sont d'autant plus efficaces?
Bien sûr. Alors, derrière, il y a aussi une responsabilité, moi je le crois, médiatique. C'est-à-dire que ces mots ont été récupérés, réutilisés tels quels par certains intervieweurs et à ce moment-là, ils deviennent réifiés. C'est-à-dire que le mot, comme il fait partie d'une question, il devient chosifié. Il veut dire quelque chose. Vous-même, Que pensez-vous de la menace wokiste à l'université ? L'interlocuteur en face ne sait pas ce que c'est, il ne peut pas savoir ce que c'est, ça n'existe pas. Mais il est bien forcé de répondre, alors on répond, ah bah oui, c'est vrai que quand même, quand on y réfléchit, on voit des choses qui, et voilà le mot qui, parce qu'il est employé, devient quelque chose. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le principe de proférence. Quand vous utilisez un mot, il finit par vouloir dire quelque chose, même si, à l'origine, il n'a pas de définition. Donc, la force de ces forces, en l'occurrence conservatrices, c'est d'avoir fait circuler des mots qui ont eu suffisamment de relais médiatiques. Valeurs actuelles, d'autres hebdomadaires qui les ont repris en une. Ensuite, des relais politique, avec des hommes politiques, puis derrière, des relais médiatiques beaucoup plus généraux, avec des journalistes qui se trouvent à poser la question, alors même qu'eux-mêmes ne savent pas exactement ce que c'est. Et voilà, un succès médiatico-rhétorique avec un mot dont tout le monde parle, alors que personne ne sait ce qu'il veut dire.
On vient de le dire, à travers wokisme, islamo-gauchisme, etc., on se rend compte que ce sont plutôt les conservateurs qui, ces dernières années en France, ont dominé cette bataille des mots. Pourquoi, à gauche, ces dernières années, on a été à la traîne là-dessus ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que, par exemple, il faudrait, je sais pas, travailler à inventer du vocabulaire, quitte à ce que ce soit parfois un peu faible du point de vue conceptuel ? On pense à Jean-Luc Mélenchon, qui a tenté, par exemple, sur les questions identitaires, il a parlé de créolisation récemment. Alors, ça a été couronné d'un relatif insuccès, mais il a tenté quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'à gauche, on est autant à la traîne et qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Là, on est au cœur du débat, encore une fois. Je pense qu'effectivement, il faut assumer ce travail rhétorique, qui est un travail de labellisation, qui est un travail de cristallisation d'un concept, d'une idée au sein d'un mot, et se servir des mots comme d'une arme de conviction, se servir des mots comme d'une arme pour s'imposer au sein du débat public. Alors, créolisation, c'est très intéressant, parce qu'on voit bien que Éric Zemmour, avec son concept d'assimilation, qui n'est pas que le sien, bien sûr, hein, mais qu'il a énormément mis en avant, avait là une arme rhétorique qui était extrêmement simple. Eh bien oui, si vous voulez venir en France, il faut vous assimiler. L'assimilation, ça paraît tellement naturel que ça en est, évidemment, tout à fait puissant dans le débat public. Et Jean-Luc Mélenchon a tenté quelque chose avec la créolisation, mais je pense que c'est bien. Et la différence, c'est que faire circuler des concepts, oui, à partir du moment, en effet, où on les travaille. Et le concept de créolisation, Jean-Luc Mélenchon l'avait quelque peu travaillé. C'était simplement le fait de dire que, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire que l'intégration se fait mécaniquement. C'était ça, le concept de créolisation. C'est le fait de dire que, de toute façon, il y a une interpénétration des cultures, il y a une inter-influence des groupes culturels, il y a une interpénétration progressive des groupes culturels, et puis, par le jeu des mariages, des naissances, des générations, au bout d'un moment, la nation intègre ces différentes composantes progressivement. Et là où moi, ce que je trouve intéressant, c'est que créolisation, le terme était un peu curieux, il faisait référence par nature évidemment à la culture créole, et ça pouvait paraître un peu étonnant de voir ce terme émerger dans le débat politique. Moi, il y a un terme sur lequel j'aurais fait un travail plutôt de redéfinition, qui est le terme d'intégration. Et moi, j'aurais opposé à l'assimilation l'intégration, mais parce que ce terme, quand on y réfléchit, il est quand même merveilleux. On l'utilise toujours aujourd'hui sous sa forme réfléchie, s'intégrer. C'est aux immigrés de s'intégrer, c'est à eux de faire ce travail pour s'intégrer. Et ce faisant, l'intégration telle que le mot est employé aujourd'hui n'est pas si différent que ça du concept d'assimilation. Alors qu'on peut aussi utiliser le mot intégrer sous une forme non réfléchie. C'est aussi à la République d'intégrer les nouveaux arrivants, par exemple, avec une politique de logement social. Évidemment que quand on fait du logement social concentré à un seul endroit où on met tous les nouveaux arrivants, oui, on ne les intègre pas. Si on faisait du logement social diffus un peu partout, alors là, oui, la République intégrerait les nouveaux arrivants. Et puis, intégrer, c'est aussi intégrer les nouveaux apports culturels, traditionnels au sein de notre nation. Et donc, l'intégration, pour moi, non pas la s'intégration, si je pouvais me permettre ce néologisme horrible, non pas le fait de s'intégrer, mais le fait pour la République de faire cet effort actif d'intégrer les nouveaux arrivants. Là, il y avait aussi peut-être quelque chose qu'on pouvait mettre en avant. Mais voyez, moi, ce que je pense, c'est que réfléchir à des termes qui vont venir cristalliser en eux-mêmes une pensée complexe, parce que là, ce dont on parle, vous avez vu, on a besoin de phrases et de phrases et de phrases pour s'expliquer. Réussir à cristalliser ça sur un terme, je pense que c'est important. Par contre, ne tombons pas dans le piège facile, qui n'est pas un piège, d'ailleurs, dans l'outil facile du mot épouvantail, ne tombons pas dans le piège, enfin, la tentation marketing de mettre en avant des mots qui ne veulent rien dire. Faisons un travail conceptuel rigoureux. Travaillons, lions nos réflexions à des sources, à des auteurs, à des références universitaires, sociologiques, philosophiques. Par contre, faisons l'effort de trouver en effet un mot qui cristallise tout cela.
Il y a une défiance de nos concitoyens à l'égard des politiques en général et de leurs paroles en particulier. Comment on lutte contre cette défiance-là ? C'est une question qui est en lien aussi avec la thématique de la parole et du langage politique. Les Kantiens vont vous dire la vérité doit être au cœur de la parole politique, alors que les Machiavéliens, au contraire, vous diront que le mensonge peut faire partie naturellement du discours politique. Qu'est-ce qu'on fait ?
En me centrant moins sur la question de la confiance des citoyens et plutôt sur celle de la vitalité du débat démocratique. Et je reviens à ce dont vous parliez tout à l'heure, les concepts mobilisateurs. Ces grands mots vides de sens qui parlent à tout le monde mais en voulant dire quelque chose de différent pour chacun. La République, la justice, l'égalité, la confiance. Bref, tous ces mots qui aujourd'hui constituent une part très importante du vocabulaire politique. Bon, moi, c'est un combat que je mène, pour le coup, et que j'assume, qui est un combat contre ces concepts mobilisateurs dont je pense qu'ils subvertissent gravement le débat public. Et pour moi, là, on a un problème en termes de vitalité de nos débats, de nos désaccords et de nos confrontations, qui est qu'une grande partie de ces discussions pivote autour de la mise en avant de chapelets, de concepts mobilisateurs. Alors, les uns vont, en effet, mettre en avant la République, la bienveillance et la lutte contre l'assignation à résidence. Et en face, les autres vont répondre en disant « pas du tout, ce qu'il faut, c'est la fraternité, la justice, l'égalité ». Et on en est comme ça à se confronter les uns les autres avec des discours qui n'ont absolument aucun sens, qui ne sont que l'agitation de mots sans contenu. Moi, je pense qu'il faut, et de ce point de vue, il faut le dire, de ce point de vue, le pouvoir actuel, la Macronie, Emmanuel Macron lui-même, ont un rôle fondamental, il n'est pas le seul. Retournez voir la conclusion du discours du Bourget de François Hollande, vous verrez ce que c'est que 2 minutes dans lesquelles il n'y a aucun contenu, 2 minutes constituées exclusivement de concepts mobilisateurs. Donc Emmanuel Macron n'en a pas le monopole, mais tout de même, les discours d'Emmanuel Macron, notamment en 2017, retournez écouter son discours de la mutualité, je crois que c'était ça, son discours de la mutualité dans lequel il lance sa campagne en 2016, c'était absolument fascinant. Il n'y avait pas le début du commencement d'un contenu, c'était du concept mobilisateur d'un bout à l'autre du discours. Et ça n'a cessé d'être le cas depuis.
J'ai l'impression que vous dénoncez ces concepts mobilisateurs, notamment vous avez cité celui de justice et l'idée aussi d'égalité. Mmh. Est-ce que toute l'idée qui devrait être celle de la gauche, ce serait plutôt de remettre du contenu sous ces concepts, dans ces concepts, plutôt que de les laisser utiliser d'une manière totalement galvaudée ou pire, totalement vide de sens. Et j'ai l'impression que, enfin, nous, c'est l'ambition en tout cas qu'on s'est donnée dans ce podcast, hein, c'est de remettre du fond derrière les idées. Et sinon, il semble très difficile de faire le départ entre les concepts mobilisateurs que l'on souhaite retenir et ceux que l'on souhaite écarter.
Alors, merci pour cette question qui me permet d'apporter une clarification qui est nécessaire. Et je sais que je suis souvent mal compris quand je parle de concept mobilisateur. Un mot n'est pas mobilisateur en soi. Il est mobilisateur par son emploi. Et je prends le concept de justice. Quand John Rawls écrit « Théorie de la justice comme équité », le mot de justice a un sens extrêmement dur, extrêmement fort. Il passe 250 pages à définir son concept, son idée de la justice. Donc, le mot de justice n'est pas en soi un concept mobilisateur. Mais quand Emmanuel Macron, au discours de la mutualité ou au discours de la porte de Versailles, vous lance « Ensemble, nous reconstruirons la justice sociale », quelle est son idée de la justice ? Est-ce qu'il entend donner plus à ceux qui ont moins ? Est-ce qu'il entend donner plus à ceux qui font plus d'efforts ? Est-ce qu'il entend donner plus à ceux qui sont français ? On n'en sait rien. Pourquoi ? Parce qu'il ne le définit pas. Donc, un concept devient mobilisateur quand il n'est pas défini, quand il n'est pas travaillé, quand il n'est volontairement pas travaillé, ce qui permet, et c'est la question que vous posiez, Saïd, qui est une bonne question aussi, ce qui permet de mettre tout le monde d'accord. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, en 2017, a un tel succès dans sa campagne électorale ? Outre le fait qu'il a évidemment un terrain politique, les planètes s'alignent pour lui. Mais pourquoi est-ce que ça marche ? Parce qu'il met en avant tout un tas de mots qui ont un sens différent pour tout le monde. Et il apparaît à ce moment-là comme la valeur refuge, à la fois pour les électeurs de gauche qui ne veulent pas aller chez Jean-Luc Mélenchon et qui ne croient pas à Benoît Hamon, pour les électeurs de droite qui sont déçus par François Fillon et qui veulent une alternative. Et les discours de Emmanuel Macron, à l'époque, on pouvait tout à fait les entendre, soit comme des discours sociodémocrates de centre-gauche, hollandistes, mais pas trop, soit comme des discours libéraux, centristes, centre-droit. On pouvait les entendre de ces deux manières. Et donc, Emmanuel Macron, en utilisant ses chapelets de concepts mobilisateurs, a réussi à mettre d'accord, à mettre derrière lui des personnes qui, a priori, pensaient différemment. Pensait-il d'ailleurs différemment? Y a-t-il une telle différence entre le centre-gauche et le centre-droit? Ce serait une autre question que l'on pourrait poser. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette utilisation, alors, et en fait, vous avez raison, je devrais davantage parler d'une utilisation mobilisatrice des concepts que des concepts mobilisateurs. Je l'emploie par facilité. Mais donc, cette utilisation mobilisatrice des concepts, là où je la trouve déloyale, c'est qu'elle est trop puissante. C'est que quand quelqu'un commence à utiliser ce genre de discours qui mobilise les affects, qui mobilise la sympathie des auditeurs, eh bien, son succès est presque trop garanti. Et donc, que font ses adversaires? Eh bien, soit ils assument de cliver, ce que fait Jean-Luc Mélenchon, ce que fait Marine Le Pen, ce que fait Éric Zemmour, soit il assume de dire, bon, nous, on a une idéologie politique qu'on a l'honnêteté de vous présenter, qu'on a l'honnêteté de nommer, et donc on sait qu'on va cliver l'électorat et mettre une partie des électeurs et des électrices en désaccord total avec nous. C'est pas grave, on espère que le reste sera suffisant pour atteindre 50%. Bon, donc soit vous assumez ça, soit vous êtes obligé de faire exactement comme ceux qui ont un discours mobilisateur, c'est-à-dire vous-même, de mettre en avant des mots qui vont ne rien dire, mais ne mettre personne en désaccord avec vous. Et ça donne le débat politique et médiatique chewing-gum qu'on a aujourd'hui, et qui ne permet pas, et c'est gravissime, qui ne permet pas aux citoyennes et aux citoyens de se forger un jugement éclairé sur les problèmes publics.
On sait que la rhétorique, revient à reconnaître le pouvoir des mots, et on sait qu'on est tous inégaux face à un tel instrument de pouvoir, un instrument de domination politique. Ma question maintenant, c'est comment donner les moyens aux citoyens de décrypter le discours, de reconnaître le fait que l'on galvaude certains termes, comment on rétablit plus d'équité en matière de décryptage du discours politique? Et est-ce que vous pensez que, par exemple, la rhétorique devrait être enseignée à l'école?
Oui, bon, réponse courte, oui, c'est ma proposition, je l'ai faite, je la réaffirme et je la réaffirmerai autant qu'il le faudra. Je pense en effet que la rhétorique devrait faire partie du cursus scolaire. Moi, ce que j'ai proposé, parce qu'il faut faire des propositions clés en main, j'ai dit une année de rhétorique pour toutes et tous, en première, pour toutes les filières, professionnelles, générales, technologiques, avant l'année de philosophie en terminale. Ce serait une année, alors c'est peut-être un peu tard parce que certains lycéennes et lycéens quittent le lycée malheureusement avant, à 16 ans, mais bon, on pourrait discuter cette idée, peu importe. En quoi ça consisterait? Un an durant lequel les lycéennes et les lycéens apprendraient à la fois à décrypter les discours, à repérer les sophismes, à repérer l'utilisation saturante, l'utilisation paroxystique des émotions, apprendrait à repérer des concepts mobilisateurs, apprendrait à évaluer un argument d'autorité, est-ce que l'autorité est recevable, est-ce qu'elle est critiquable, bref, ils apprendraient à se forger leur idée sur les discours dont ils sont et elles sont les destinataires, et puis un an dans lequel les lycéennes et les lycéens apprendraient également à produire des discours, à argumenter leurs pensées, à défendre efficacement leur point de vue. C'est un enjeu absolument crucial. Alors, on peut faire progresser dans la capacité à argumenter, et c'est même la porte d'entrée vers un idéal merveilleux, vers l'idéal qui devrait tous nous rassembler, parce que, après tout, être capable de défendre sa pensée, être capable de critiquer les discours dont nous sommes les récepteurs, c'est la définition même de la démocratie. Le seul problème, c'est que pour y parvenir, il faut accepter que le pouvoir politique veuille former des citoyennes et des citoyens qui seront capables de le contrer, de le critiquer, de s'y opposer. Et ça demande des efforts.
Merci Clément Viktorovitch.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ce podcast a été enregistré au studio La Seine, produit par l'ACME, proposé par l'Obs. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast et surtout, n'hésitez pas à nous écrire pour partager vos avis ou pour proposer de traiter certains sujets dans de prochains épisodes. À très vite.